Aujourd'hui, à Rencontre spirituelle, je compte entreprendre une petite série de 3 émissions de conversion. Aujourd'hui, ce sera la conversion de Saint Ignace de Loyola, dont je vous ai déjà parlé. Alors, je m'attarderai à sa conversion. Il est mort en 1556, et chacun sait, j'espère, qu'il a fondé les Jésuites en 1554. Il est fêté le 31 juillet. Et lundi, ce sera Blaise Pascal, qui est mort en 1662. C'est un grand scientifique, comme on sait, très grand scientifique, mais aussi un philosophe. Et il lui est arrivé une nuit de feu qui l'a transformé. Et je vous parlerai donc de ça. Et mardi, je vous parlerai d'Ernest Psychary, mort au début du siècle, durant la guerre, au début de la guerre, 1914. Petit-fils de Renan, ami des Maritains, un grand converti. Donc aujourd'hui, place à Ignace de Loyola. Je m'inspire d'un texte d'Henri Gobert. J'en ai lu beaucoup, et puis c'est celui qui m'inspire le plus. Il rend compte que dans les premiers jours de mai 1521, ça vous dit quelque chose, 1521, à la plupart d'entre vous, c'est le début de la réforme protestante. Hein? C'est Luther, moine augustin, un moine savant, qui est un peu révolté, et de plus en plus révolté contre l'Église, et sur certains points, il avait bien raison d'être révolté. Il a voulu faire une réforme, probablement à l'intérieur de l'Église, et ça s'est fait finalement à l'extérieur de l'Église. Il a divisé l'Église, malheureusement. Et au même moment, donc, il y a une armée mi-française, mi-navarraise, hein, la Navarre, qui n'est espagnole que depuis 1512, là. Ce sont des Navarrais. Puis des Français, là, sont composés quand même de 12 000 soldats. Puis il y a 600 lances, hein, c'est important, 29 pièces d'artillerie qui envahissent les états de l'empereur Charles Quint, donc de ce qu'on pourrait considérer comme l'Espagne. Le 19 mai, juste passé le milieu de ce mois de mai 1521, le jour de la Pentecôte, les députés de Pampelune prête serment, finalement, au lieutenant-général de François Ier, le lieutenant-général, donc, de l'armée française. Et aussitôt, une colonne de 300 hommes se met en devoir d'occuper la capitale de la Navarre. Il restait la citadelle. Il y avait une poignée de basques, là, solides, qui se retranchaient dans cette citadelle. Vous savez, c'est une espèce, on appelle ça en espagnol un castillo, un fort, quoi, qui est bien approvisionné en viande fraîche, puis même en salaison. Et ils ont des boulets, puis des barils de poudre. Et ils sont en mesure de soutenir parfaitement le siège. Et puis ils sont commandés par l'alcalde Herrera. Puis un de ses lieutenants, cet homme, qui est-ce? Un noble basque, issu d'une famille, d'une illustre famille de Guipuscoa, qui s'appelle Inigo de Loyola. Ignace de Loyola. C'est un jeune cavalier que l'on décrit comme étant mince. Il devait avoir à cette époque à peu près 28, 12, 10, 31 ans. Et mince, élégant, la taille bien prise. Il avait un visage fin, un peu aristocratique, hein? Il était maigre, un peu osseux. Il était éclairé de 2 grands yeux profonds. Il avait une fine moustache aussi, puis une mince barbe. Hein? On en voit des fois des gens qui portent ça, une fine moustache puis une mince barbe. Ça se porte encore. Et ça lui donne une allure de héros de roman. D'après les témoignages de ses contemporains, d'ailleurs, il se montre extrêmement soucieux de son aspect extérieur. Hein? Il aimait ça. Il soignait, dit-on, même plus que de raison, ses mains et sa chevelure. Donc, les vanités, ce futur saint, ce futur très grand saint. Quant au portrait moral d'Ignace, c'est pas drôle. Hein? Son premier biographe, Ribadeneira, nous dit qu'il était un soldat déréglé et vain. C'est pas drôle. D'ailleurs, les historiens de la Compagnie de Jésus s'accordent parfaitement sur la jeunesse bien peu édifiante du fondateur de ce grand ordre des Jésuites. Le père Malfray nous parle de débordement et de vice. C'est écrit en latin, « Cecco serrores et vitia ». Le père Bartoli m'y rapporte qu'Ignace savait se montrer très galant à l'égard des dames, courées filles, quoi. De son côté, le père Polanco, qui a beaucoup écrit, lui ne nous rassure guère. Il écrit « Jusqu'à l'âge de 26 ans, la vie qu'il a menée n'apparaissait rien moins que spirituelle. » C'était pas spirituel du tout. Il ajoute, comme tous les jeunes gens aient pris des cours et de l'armée, les cours, c'est-à-dire la cour de tel prince, la cour de tel duc, où on peut trouver des femmes, alors il était pris des cours et de l'armée, il a vécu assez libre dans l'amour des femmes, dans les jeux et dans les disputes. Les disputes pour quoi? Les disputes pour point d'honneur, vous savez, des duels, quoi. On dit même qu'il aurait peut-être tué quelqu'un. Pour compléter, le père Gonzalez nous apprend qu'il a reçu de la bouche même de Saint-Ignace le récit circonstancié de ses folies de jeunesse. Quelqu'un me disait ces jours-ci qu'il était même amené au bordel par son propre frère qui était prêtre. Alors il était impatient, c'était un emporté, un basque agité et séduisant, aussi peu soucieux de son existence que de celle des autres. Il ne rêvait que d'être un soldat, faire des assauts, des batailles. Il aimait les duels aussi. Et ce jeune aristocrate possède l'instruction rudimentaire de ce qu'on appelle un féodal du 16e siècle. Il sait déchiffrer un texte. Bon, il sait écrire. Il se sait même de quelques sonnets en langue castillane, l'espagnol le plus pur, en l'honneur de sa dame, comme on dit. On voit la chevalerie qui continue. Puis il écrit même un sonnet en l'honneur de Saint-Pierre, son patron préféré. Il aimait Saint-Pierre. Mais les folies de sa jeunesse restent ses principales lectures. Il lit les romans de chevalerie. Est-il croyant? On écrit, il ne pensait alors, c'est le père Nadal qui dit ça, il ne pensait alors ni à la religion ni à la piété. Ce sont des contemporains qui écrivent. Avec plus de bon sens psychologique, le père Polanco, qui rectifie ce jugement un petit peu trop sévère, en disant bien que très attaché à la foi, il ne vivait pas selon sa croyance. En est-il comme ça aujourd'hui? Il ajoute, et ne se gardait pas du péché. Il était particulièrement déréglé dans le jeu, dans les affaires de femmes et les duels. En somme, un croyant convaincu, d'une certaine façon, doublé d'un bien piètre chrétien, voilà donc Saint-Ignace de Loyola avant sa conversion. Mais sur le champ de bataille, nous le voyons se transfigurer, vous allez voir. Il apparaît, d'abord, comme un véritable chevalier. Il n'a pas peur du danger. Il est plein de mépris pour la mort, aussi. Et il a une qualité extraordinaire, le butin qu'on ramasse, là, quand on est soldat comme ça. Mais il abandonne la plupart du temps ses compagnons. Dans la citadelle de Pampelune, Ignace de Loyola se prépare à se défendre. Et peut-être à mourir. Comme il n'y a pas de prêtre dans l'enceinte de la forteresse, qu'est-ce qu'il fait? Il se confesse à l'un de ses compagnons d'armes. Ça vaut pas, c'est pas un sacrement, mais c'est déjà un beau geste. Puis, il court au rempart où les Français commencent à donner l'assaut. Et des deux côtés, il y a l'artillerie. Les troupes françaises viennent de combler les fossés, là. Et ils ont des échelles qui sont appliquées contre les murailles. Et puis déjà, les Français montent et commencent à prendre pied dans le castillo là, de Loyola. Et 6 heures durant, la victoire va balancer entre les deux camps. Ignace de Loyola a confié au père Gonzalez de Camara ce qui suit. Il a confié ça beaucoup plus tard, en septembre 1553. L'attaque durait depuis un bon moment quand je fus atteint d'un boulet qui passa entre les deux jambes, blessé l'une et l'autre. ça a brisé l'autre. C'était le 20 mai 1521, le grand jour, un grand jour dans l'histoire de l'Église. C'est surprenant, hein? Oui, dès que les troupes assiégées voient à terre celui qui incarnait l'âme de la résistance espagnole, elles parlent de reddition. À vrai dire, à l'exception des officiers, la garnison se montre assez peu belliqueuse. Et à trois reprises déjà, les défenseurs de la citadelle, eux, ils ont essayé de hisser le drapeau blanc au cri de « Francia, Francia » pour se soumettre aux Français. Et la chute, finalement, du chef, Ignace Loyola, entraîne bientôt celle de la citadelle. Les Français s'en emparent. Ils savent se conduire quand même en parfait gentilhomme. Ça peut nous consoler, nous qui sommes d'origine française. De l'aveu même d'Ignace, hein, ils prennent, ils prennent très grand soin de lui, usant à son égard de procédés courtois et amicaux. De très bons médecins de l'armée française le soignent dans la maison de Pampelune qu'il habitait avant de s'enfermer dans la forteresse, c'est ce qu'il raconte. Il ajoute, pendant les 10 jours que dure son traitement Pampelune, ça c'est ce qu'il a confié à Polanco, Ignace reçoit la visite des officiers et des soldats français, et pour leur témoigner sa reconnaissance, ben, il leur offre en présent tout ce qu'il possède d'armes et de prix, et puis d'objets précieux. On pourrait dire que c'était une bien galante époque. Hein. Les adversaires s'estiment, conversent, échangent des visites entre deux combats, prennent des nouvelles des blessés. Enfin, c'est un peu spécial quand on pense à ce qui se passe aujourd'hui. Et bientôt, Ignace exprime le désir de retourner dès que possible au manoir de Loyola, de sa famille. Toujours prêt à accomplir à leur adversaire, les Français le transportent même en litière. C'est ce qu'atteste Ignace de Loyola par la plume du fidèle Gonzalez. Ce sont des épisodes plutôt charmants, tout à fait dans la note des romans de chevalerie hein, de l'époque. Et au cours du transport de Saint-Ignace, de Pampelune au manoir de sa famille, le manoir de Loyola, l'appareil qui soutenait sa jambe malade se brise par accident, puis il est convoqué d'urgence. Les chirurgiens des alentours jugent qu'il faut sans retard casser à nouveau les membres pour emboîter les os à leur place normale. Et cette boucherie se fait donc de nouveau. C'est ce qu'on raconte, c'est ce que raconte Ignace Loyola. Et lui, celle-là comme en toutes les autres qu'il a auparavant souffertes, il souffre encore, mais ne dit jamais un mot. Il ne donne aucun signe de douleur que de serrer fortement les poings. Et cependant, il va de mal en pis. Il ne peut plus manger. Il éprouve déjà les autres accidents qui sont l'indice de la mort. Et maintenant, les médecins n'osent plus parler de guérison. Et la veille de la fête de Saint-Pierre et Saint-Paul apôtre, le capitaine basque, Ignace de Loyola, reçoit donc les derniers sacrements, ou les sacrements des malades, mais voilà qu'au milieu de la nuit, l'agonisant ressent tout à coup un mieux extraordinaire, et quelques jours après, il est hors de danger. C'est à croire que le sacrement des malades suscite parfois, n'est-ce pas, de telles guérisons. Et alors, sur les entrefaites, je reviens à Loyola, Ignace qui reçoit du front de bataille des nouvelles plus que réconfortantes. Les troupes françaises, imprudemment engagé en Navarre, qui combattait là, venait de subir une défaite retentissante. Ça n'a pas marché leur affaire. Et déjà sous le commandement du duc de Nájera, l'armée espagnole refoule l'envahisseur, qui est obligé de se replier en désordre. Et ainsi donc, l'expédition de François Ier puis du roi de Navarre contre Charles Quint se termine par un échec complet. Puis on devine la joie qu'éprouve Ignace à l'annonce de la victoire castillane, parce qu'il était, lui, rangé de ce côté, laquelle, à ses yeux, efface la capitulation de Pampelune, qui était la ville voisine de chez lui. Mais malheureusement, il ne peut être question pour ce jeune capitaine basque de reprendre de sitôt l'épée et la cuirasse parce qu'elle a la jambe brisée, qui serait sous, mais les chirurgiens ont mal pris les mesures et au-dessus du genou, il y a un os qui se trouve à cheval sur un autre, d'où il résulte que la jambe est raccourcie. Et par ailleurs, là, c'est tellement ensailli que la jambe en perd son élégance. Alors, imaginez qu'Ignace de Loyola n'hésite pas un seul instant. Il exige, quoi, qu'on fasse aussitôt disparaître cette excroissance qui compromet la ligne et qui lui interdirait de chausser désormais les élégantes bottes collantes si à la mode à cette époque. Il n'est pas encore converti, comme vous voyez. On lui répond que la douleur sera bien plus vive que celle qu'il a déjà soufferte parce que son corps était sain et que l'opération demandera du temps. Alors, contre l'avis des siens, Ignace Loyola se confie encore une fois aux mains des chirurgiens. Alors, on scie l'os. Oui, on le scie. On étend le blessé sur un treuil et au moyen de cordes et de poulies, on exerce des tractions méthodiques sur cette jambe destinée, en fin de compte, à rester plus courte que l'autre. Parce qu'il va boiter toute sa vie. Mais qu'importe. Ses souffrances. D'un jeune cervelé qui rêve de reprendre dès sa guérison le cours de ses aventures guerrières et puis ses aventures galantes aussi, hein, Ignace de Loyola encore. Il ignore encore que Dieu l'attend au détour. Hein. Et durant les longues journées d'inaction passées sur son lit de torture, il se plaît à imaginer son retour à la cour. Hein. Dès sa jeunesse, Ignace avait fait partie de la maison de Juan Velázquez, trésorier de Castille. Et de ce fait, il avait suivi la cour espagnole dans toutes sortes de déplacements à travers l'Espagne. Il se voyait devenir le chevalier servant d'une grande dame. Plus que marquise, plus que duchesse, a-t-il dit. Et déjà, il songeait à ce qu'il aura à faire, à son service, aux paroles qu'il lui adressera, puis aux faits d'armes qu'il accomplira en son honneur. Hein. Pauvre cervelé, pour Ignace de Loyola, cette blessure reçue à Pamplune ne devait être qu'un court entracte dans sa vie de soldat puis de gentilhomme. Il se trompait pour combattre l'ennui des longues journées de convalescence. Et là, ce qui va lui arriver, Ignace demande aux siens quelques-uns de ses romans de chevalerie, qui font ses délices, puis les délices des aristocrates de cette époque. La jeunesse de notre héros a été bercée par des extravagances, des romans à la mode. On ne peut trouver dans le château aucun de ses livres auxquels, de son propre aveu, il est très adonné, dit-il, très adonné. Tout ce qu'on découvre, c'est un exemplaire de la vie de Jésus, oui, du chartreux Ludolphe le chartreux, dont je vous parlerai un jour, ainsi qu'une traduction espagnole de la vie des saints de Jacques de Voragine. Ça se trouve en livre de poche actuellement. Ça. La vie des saints de Jacques de Voragine. C'est un peu spécial. C'est écrit il y a longtemps et c'est très romancé. Il y a des bien plus belles vies de saints aujourd'hui qui sont plus scientifiques. Hein. Alors, à défaut d'autres lectures, Ignace commence, sans enthousiasme du tout, à feuilleter ses gros livres, des livres édifiants. C'est pas ce qu'il veut. Mais voici qu'Ignace de Loyola, qui était plutôt épris de prouesses légendaires, puis d'exploits surhumains, puis vous savez, comme les enfants qui aiment les films, oui, tout le monde qui aime ça, ces films avec des prouesses extraordinaires, il va commencer à s'intéresser à la vie héroïque des saints. Oui, la vie des saints va le transformer, parce que leur existence lui apparaît comme un continuel combat contre l'esprit du mal. Et ça lui plaît tout à coup. Les récits un peu naïfs de Voragine, comme je vous dis, qui sont enjolivés à plaisir, d'ailleurs la plupart du temps d'une rusticité plus que douteuse, là, ça enflamme son imagination. Lui, ce capitaine, il se laisse prendre. Et ces deux livres, la vie de Jésus et les vies de saints, lui découvrent tout un monde spirituel. Et lui aussi, il veut distribuer ses biens aux pauvres tout à coup. Et lui aussi, il veut abandonner les siens pour l'amour du Christ. Alors il rêve de partir nu-pieds sur les routes, d'aller en pèlerinage à Jérusalem et de faire pénitence dans une grotte où jusqu'à l'heure de la délivrance, il pleurera ses péchés. Mais quand même, de temps à autre, pas s'empêcher de songer à la carrière des armes vers laquelle il se sent encore attiré. Hein? Il n'est pas encore décidé. Alors il s'amuse à rêver des heures durant à la dame de ses pensées, comme il le dit. Son imagination déréglée nous permet d'entrevoir des aventures invraisemblables. Alors, il oublie qu'il veut devenir ce qu'il veut devenir, hein? Ce qu'il voulait devenir, devrais-je dire, quelques instants auparavant. Il voulait devenir un ascète qui pratiquait des mortifications les plus austères. Puis là, il pense plutôt au plaisir des camps militaires, les charmes érotiques de la cour. Ignace se rend compte qu'il joue ainsi une partie dont son âme, et avec elle, des milliers d'autres âmes, sont en jeu. Non, c'est sûr. Le jeune exalté se laisse plutôt aller à des impulsions irraisonnées. Il cherche pas trop à analyser. C'est pas facile de se convertir, hein? Ignace de Loyola n'est pas encore le profond, le subtil psychologue qui va devenir par la suite. Mais quand même, on ne tarde pas à s'apercevoir que les songeries creuses dans lesquelles il imagine toutes ces aventures mondaines absolument folles, ça laisse en son âme une impression de vide. De vide de sécheresse puis de dégoût. Tandis qu'au contraire, ses pensées religieuses puis ses résolutions de vie chrétienne le remplissent
de quoi?
D'une paix profonde, d'une paix durable. Un bon jour, alors qu'il médite sur ces deux courants d'idées qui se brassent en lui, qui le tiraillent dans des sens opposés, il va comprendre enfin que, comme dans l'histoire des saints, le bien et le mal se livrent bataille au fond de son âme. Or, il se dit qu'un gentilhomme idéaliste, comme il l'est, ne peut de gaieté de cœur se ranger sous la bannière du mal. Et sur le champ, il décide de se consacrer entièrement à Dieu et non au diable. Au diable, le diable! Au diable, les rêves de chevalerie! Il choisit les plus beaux rêves de sainteté. Et nous sommes toujours en 1521. Une nuit, alors qu'il est éveillé, il a 30 ans, il est né en 1491, il aperçoit clairement une image de Notre-Dame avec le Saint-Enfant Jésus. Est-ce une vision? Imagination? Il ajoute de cette vue pendant un espace de temps notable. Il reçoit consolation jusqu'à l'excès. Il demeure avec un tel dégoût de toute sa vie passée, spécialement de l'impureté, qu'il lui semble que de son âme sont arrachées toutes les impressions qui jusque-là y étaient comme gravées. Alors on peut croire sur parole ce qu'écrit le père Gonzalez de Camara, qui nous rapporte ces faits extraordinaires, il les tient de la bouche d'Ignace de Loyola, hein? Et le biographe a écrit ce chapitre vraiment sous la dictée de saint Ignace. Alors devons-nous aussitôt crier au miracle? Avec sa prudence habituelle, Ignace de Loyola se demandera toute sa vie si cette apparition présente vraiment tous les caractères d'une vision divine. Et comme depuis cette nuit-là, le fondateur de la Compagnie de Jésus avoue n'avoir donné au péché impur le moindre consentement. C'était une conversion totale. Il pense finalement que l'événement ne peut juger avoir été de Dieu, bien qu'il n'ose le déterminer. Il n'ose pas affirmer que c'était vraiment un grand miracle. J'ai bien l'impression que ça l'était. Hein? Et à dater de cet instant, Ignace se trouve entièrement transformé du point de vue spirituel, et autour de lui ne parle plus que du Créateur. Oui, quand on a conscience qu'on a été créé par amour, on se livre à cet amour. Hein? Et allongé sur le lit, où il retient encore sa blessure, il lit la vie de Jésus et la vie des saints, et il ne cesse de prier. Il se propose même de copier certains passages qu'il frappe, et dès qu'il commence à se lever et à marcher un peu, il s'empresse de transcrire ce choix de texte dans un grand registre de plus de 300 pages. Mais les paroles de notre Seigneur qui seront à l'encre rouge, puis celles de Notre-Dame à l'encre bleue, et sans recourir plus qu'autrefois au sacrement de l'Eucharistie, bien Ignace continue à vivre par la pensée en compagnie des saints, des héros, des chevaliers du Christ, et le soir, il contemple le ciel et les étoiles. Il éprouve une joie spirituelle des plus profondes, puis en ces instants, il sent en son âme un grand élan pour servir Jésus, notre Seigneur. Et vers cette même époque, il envoie un de ses domestiques s'enquérir à la chartreuse de Miraflores, près de Burgos, de la vie religieuse qu'on mène dans ce cloître. Et à un même moment, il pense se retirer à la chartreuse de Séville, sans dire qui il est, afin qu'on fasse moins de cas de lui, parce que c'est un noble. Et cependant, les règles des moines semblent d'avance lui peser. Hein? Il aimerait mieux garder toute sa liberté pour satisfaire, comme il l'entend, la haine qu'il a de lui-même. Et il décide que ce sera seulement au retour d'un pieux voyage à Jérusalem qu'il aura à examiner vraiment s'il s'enfermera dans la chartreuse. Alors, je reviens donc à Ignace de Loyola. Parce que les récits rapportés par les chroniqueurs sur d'autres saints comme saint François et saint Dominique existaient à l'époque de saint Ignace. Hein? Et ça le frappait particulièrement, ces deux grands fondateurs. Saint Dominique fait ceci, saint François d'Assise fait cela. Il se disait, je dois donc le faire aussi. C'est pas tout d'écouter des vies de saints ou de les raconter. C'est d'essayer de faire un petit peu ce qu'ils ont fait. Lui est assez jeune pour penser à faire ce qu'ils ont fait, saint Dominique et saint François. Pour ça, je m'adresse aux jeunes qui m'écoutent. Faites de vos vies quelque chose de valable. N'attendez pas. Il faut se décider. Puis si ça ne marche pas, bien, demandez à Dieu de vous guider autrement. Alors, Saint-Ignace, il brûle de réaliser cet idéal chrétien qu'il voit dans les vies de Saint-François d'Assise, de Saint-Ignace, de Saint-Dominique. Il est désireux, lui, de surpasser même les bienheureux. De les surpasser comment? En patience, puis en charité. C'est un jeune noble converti qui sait que c'est la patience d'abord, l'humilité, puis la charité qui compte. Alors, dans la salle de son manoir, moyen-âgé, il attend, avec une certaine impatience, il n'a pas toujours la patience, le moment de s'élancer vers une nouvelle conquête qui est la couronne du bonheur éternel promise par le Christ à ses élus. Alors il traîne encore la jambe, le pauvre Ignace de Loyola. Mais vers le début du mois de mars 1522, ça fait même pas un an, 10 mois, même pas, que l'accident est arrivé. Il décide de quitter le château familial pour aller, au hasard des routes, vivre sa vie dans le Christ. Il se fait un peu comme Saint-Joseph Benoît Labre. Alors, il ne veut pas attrister sa famille. Il croit bon de se déguiser. Puis de faire semblant qu'il a d'autres idées en tête. Il fait semblant de se rendre à Navarrete pour reprendre du service sous les ordres du duc de Nájera dont il a été question tout à l'heure. On conçoit très bien que la famille d'Ignace ne soit pas dupe. Il se doute de quelque chose. La métamorphose spirituelle d'Ignace, ça n'a pas échappé à grand monde dans son entourage. Tout le monde se rend compte qu'il y a quelque chose. Puis le voyage, il s'en souvient, le voyage du domestique à la chartreuse de Burgos, là, laisse partout deviner certains désirs de vie religieuse de la part d'Ignace. Aussi, dès que ce blessé raconte à son frère aîné Martin ses projets de départ, Martin le supplie de ne pas sacrifier aussi follement son avenir militaire. Mais rien à faire. Martin lui fait comprendre que son pays et sa famille attendent de lui de grandes choses. Et sans trahir la vérité, Ignace s'efforce tant bien que mal de rassurer les siens. Bientôt après, il s'éloigne du château de Loyola, monté sur une mule et revêtu de ses armures. Puis il est accompagné d'un de ses frères, puis de deux écuyers. Dans son bagage, qu'est-ce qu'il emporte, le saint? Saint Ignace emporte un peu d'argent, une image de la Vierge, elle lui était apparue. Un livre d'heures, c'est-à-dire, si vous voulez, un bréviaire. Un livre d'heures, c'est pour réciter les heures. Hein, les, primes, tierces, sextes, nonnes, vêpres, complies, etc. Les matines, les laudes. Et puis, il emporte aussi le fameux registre dont je vous ai parlé tout à l'heure, où se trouvent recopiées en encre de couleur les paroles de Notre Seigneur puis Notre-Dame, qu'il avait trouvées dans l'ouvrage de Ludolphe le Chartreux. Le petit groupe s'arrête tout d'abord au sanctuaire miraculeux de Notre-Dame, d'Aranzazu. Et Ignace passe là une veillée nocturne, c'est historique ça, au cours de laquelle il reçoit, on ne le saura que bien plus tard, en 1554, il reçoit des grâces spéciales, au sujet desquelles ce basque peu bavard juge inutile de nous renseigner plus spécialement. On ne saura jamais. Mais on sait qu'il a, il s'est passé quelque chose dans cette nuit de prière. Prions et des choses vont nous arriver. Hein? La prière est à la base. Puis la seconde étape dans son petit voyage, là, c'est Oñate, où Loyola voit une de ses sœurs. Puis là, on se dirige ensuite, le petit groupe se dirige vers Nájera. Mais là, contre toute attente, Loyola s'arrête à 3 lieues de la ville. Puis, il envoie un de ses écuyers chez le trésorier du duc de Nájera pour lui demander de lui régler certains arriérés de solde. Il lui doit de l'argent. Alors, averti par son intendant de la présence d'Ignace de Loyola, à peu de distance de la place forte, le duc Antoine de Nájera, en envoyant la somme, fait dire à son ancien capitaine qu'il lui confiera, avec plaisir, un poste important. Mais Ignace ne veut plus désormais combattre dans sa milice. Il veut la milice du Christ. Il se veut soldat du Christ. Et de l'argent reçu, qu'est-ce qu'il fait? Ben, Ignace prélève une certaine somme pour quelques-uns de ses créanciers, parce qu'il devait un petit peu d'argent ici et là. Puis, il envoie le reste de cet argent pour très bien orner certaines images de la Vierge. Mais aussitôt après, le chevalier Ignace de Loyola congédie les siens. Puis, au pas tranquille de sa mule, ça marche lentement, une mule, hein, il se dirige vers le monastère catalan du Montserrat. Oh, c'est beau, le Montserrat. C'est superbe, il faut voir ça. Hein. Et sur cette longue route, c'est en Catalogne, c'est tout près de la France, en Espagne, sur la Méditerranée, là, près de la Méditerranée. Et puis sur cette longue route qu'il parcourt seul, puis il est toujours en méditation, il lui arrive des aventures, il reçoit des lumières très précieuses. Arrivé à l'étape, il passe une partie de ses nuits à s'administrer la discipline, c'est-à-dire à se fouetter le dos avec un fouet, là, à pleurer ses péchés, à implorer le pardon de Dieu. Car l'heure des réalisations vient de sonner. L'ancien soldat se lance dans ce qu'on appelle les macérations, les pénitences. Il se lance là-dedans comme on court à une victoire. Hein? C'est toujours le caractère de chevalier puis de volontaire. Mais le vieil homme, en l'occurrence, le duelliste impénitent est toujours là, au fond de son cœur. Il s'est battu en duel plusieurs fois et ça veille encore. Parce que sur la route de Catalogne, il rencontre un mort, un musulman, qui chevauche sur son mulet. Ils marchent de compagnie ensemble, dit le texte ancien. Je continue au cours de la conversation qui s'engage, il parle de Notre-Dame. Bon, le musulman admet bien le caractère divin de la conception de Jésus, mais il ne peut comprendre que Marie soit demeurée vierge après l'enfantement. Les discussions religieuses qui mènent au danger. Le texte ancien dit, et il allègue les objections qui lui viennent à l'esprit, et jamais il ne veut s'en départir, malgré les nombreuses raisons que lui donne le pèlerin, Ignace de Loyola. Bientôt, les deux voyageurs se séparent. Le mort, le musulman, qui a renseigné Ignace sur le but de son voyage, une villa tout proche, pique sa monture de l'éperon, vous savez, puis il disparaît bientôt hors de la vue du jeune basque Ignace. À la réflexion, ce dernier ne tente pas à se demander s'il ne vient pas de commettre une trahison à l'égard de la Sainte Vierge. Il n'a pas relevé l'insulte faite ainsi à sa dame, à la reine des cieux. Et aussitôt, le demi-converti, hein, il n'est pas converti encore, il se ressaisit de son poignard et déjà il se dispose à courir vers cet infidèle pour lui demander raison par les armes de cette injure à Notre-Dame. Son vieux sang basque et le point d'honneur exigent la mort du blasphémateur. Mais, d'autre part, la charité chrétienne n'existe-t-elle pas, et plus impérieusement encore, le pardon des offenses? Alors, il est encore indécis sur le parti à prendre, et Ignace de Loyola décide de s'en remettre à la Providence. Bon, il n'est pas capable de se décider. Il se décide par le hasard, la Providence, dit-il. Abandonnant les rênes, sur le coup de sa bête, là, il laisse aller la mule à sa guise. Et à un moment donné, la route royale bifurque. Alors d'un pas délibéré, la mule s'engage dans le chemin opposé à celui qu'avait pris le musulman. C'est le chemin du pardon, donc il faut obéir. Et Ignace replace le poignard dans sa gaine. Quelques jours plus tard, après avoir abattu près de 80 lieues, dont 400 kilomètres en 2 semaines, ce capitaine Pétignas arrive en vue du célèbre monastère du Montserrat, où il y a des bénédictins, hein, et des chants merveilleux. C'est superbe. C'est dans des rochers roses. C'est extraordinaire. Alors là, il aperçoit la silhouette dentelée qui se découpe sur le ciel outre-mer de Catalogne, en Espagne. Pensant à son départ tout proche pour Jérusalem, Ignace, au passage, s'arrête au village d'Igualada. Il achète quelques mesures de toile à sac, dans laquelle on lui taille aussitôt une sorte de tunique informe qui lui tombe jusqu'aux chevilles. Il s'habille un peu comme François d'Assise au début. Il se procure également un bourdon, c'est-à-dire le bâton classique du pèlerin. Il veut aussi une petite calebasse, hein, pour boire, et une paire d'espadrilles. Ben, ça ne veut pas dire des espadrilles comme des Nike et des choses comme ça, hein. Il attache le tout à l'arçon de sa selle, puis il s'avance en cet équipage vers le cloître bénédictin du Montserrat. Depuis déjà plusieurs siècles, l'Occident se plaisait à considérer Montserrat comme une montagne sainte. De plus en plus nombreuses, chaque année, des foules de pèlerins accouraient déjà vers cet asile de foi, de paix, où les bénédictins mènent une vie édifiante de travail et de prière. Ora et labora. C'est à la porte de ce célèbre monastère que le 21 mars 1522, c'est une grande date encore, le pénitent Ignace de Loyola vient frapper à cette porte. Comme il demande à voir aussitôt un moine, on lui indique le moine français Fray Jean Chanon. 3 jours durant, Ignace, en confession, procède à l'aveu de ses nombreuses fautes. Après quoi, ce noble seigneur de Loyola, jeune encore, se dépouille de tous ses atours. Il revêt la tunique en toile de sac achetée en traversant Igualada. Puis, il va donner en grand secret ses beaux habits à un mendiant. Puis, en dépit des apparences, Ignace reste encore un féodal. On sait que, pour l'adoubement, c'est une cérémonie d'initiation d'un chevalier. Pour l'adoubement du chevalier, ben, le rite prescrit aux néophytes une nuit en prière dans l'église, avant la communion du lendemain matin. Et avant d'entrer dans la milice du Christ, Ignace, en bon chevalier Notre-Dame, veut donc lui aussi avoir sa veillée d'armes. Et jusqu'à l'aube, il prie, sans s'asseoir, ni se coucher devant l'autel de Notre-Dame du Montserrat. Là, nous revenons à Ignace de Loyola, son fait une veillée d'armes au monastère des Bénédictins du Montserrat, en Catalogne. Son épée, son poignard, son casque, sa cuirasse, il les a confiés à ce frère français, ce moine français, Jean Chanon, pour les suspendre. Après son départ, en ex-voto, hein, vous avez déjà vu ça, disons à l'oratoire, les ex-voto, dans la grande chapelle des ex-voto. Là, c'est dans la chapelle de la Vierge. Ainsi revêtu de son sac de pénitence, il demande humblement Jésus la grâce d'être agréé dans l'armée sainte du Seigneur. Jamais par la suite, Ignace de Loyola ne consentira à livrer le secret de cette nuit mystérieuse, encore une fois. Sans doute riche en grâces surnaturelles, il est discret sur toutes les grâces qu'il reçoit. Et dès le lendemain, il s'éloigne de Montserrat où il risque de rencontrer des personnes de sa connaissance, puis se dirige vers Manres. Petite agglomération toute proche, je suis allé d'ailleurs, où il projette de faire pénitence une dizaine de jours avant de s'embarquer pour la Palestine, sa terre promise. Et en fait, il va rester près d'une année à Manres, et c'est là que s'opère la métamorphose spirituelle, c'est là qu'Ignace va devenir l'homme de Dieu. J'avais rapporté de Manres un petit caillou que j'ai donné à ce bon père jésuite que j'aime beaucoup, Irénée Beaubien, dans un reliquaire. Il arrive tête nue, les cheveux broussailleux, la tête hirsute, vêtu de cette rude tunique. Il claudique, qui boite légèrement, à cause de sa blessure. Hein? Le pied gauche est sans chaussure, le pied droit est encore bandé, chaussé d'une sandale. Et dès qu'il apparaît, il soulève les rires des petits garçons, des mauvais garçons. Hein? L'homme au sac, on crie, on se moque de lui. Lui, il aime ça, finalement, ces humiliations-là, il en a besoin. Il lui faut de l'humiliation pour se comprendre, comme disciple du Christ. Et par les rues, il mendie son pain. Il n'accepte ni viande, ni vin. Il est sollicité par quelques âmes compatissantes. Il y a les Dominicains, oui, qui lui cèdent par charité une cellule dans leur prieuré. À Sainte-Lucie, l'hôpital des étrangers, bien, il soigne régulièrement les malades. Il se laisse rebuter par aucune plaie. Il a changé complètement. Il ne refuse aucun travail. Aux enfants qu'il rencontre, il parle de l'amour de Dieu. Aux adultes, il prêche la parole du Seigneur. Il dit les vraies choses. Et les Dominicains lui ont donné l'autorisation de suivre, en compagnie de la communauté, le fils de nuit, matine. Et là, en dépit de son ignorance du latin, il reçoit la révélation de la beauté liturgique de la psalmodie et du chant sacré. Oh, tous ceux qui m'écoutent et que vous avez goûté ça, vous savez ce que c'est, hein? Quand on voit des moines des moniales qui prient devant nous. Tous les jours, il assiste à la grand-messe, aux vêpres, à l'office des complis, le soir, à la noirceur. Et le dimanche, il se confesse puis il communie. Et dans la journée, il ne consacre pas moins de 7 heures à l'oraison mentale, 7 heures. Et ses macérations, ses pénitences, ses disciplines ébranlent sa santé. Il est imprudent. Même à plusieurs reprises, ça met sa vie en sérieux danger, hein? Une semaine entière, il va se priver de toute nourriture. Il va manger seulement sur l'ordre formel de son confesseur, qui est effrayé en apprenant ce que fait Ignace de Loyola. Il est encore loin, cependant, de jouir de la paix complète de l'âme. À plusieurs reprises, en plein jour, il aperçoit un serpent recouvert d'yeux. Drôle de vision, hein? Cette vision provoque en lui une sensation très douce qui se renouvellera et augmentera à chaque apparition de cette bête étrange. C'est des rêves. Lorsque l'animal se montre à lui au cours de la nuit, il la dissipe par manière de mépris avec le bourdon, là, sa canne, son bâton de pèlerin qu'il tient toujours à la main. Il est continuellement en proie de douloureux scrupules aussi. C'est normal, après une conversion, on se demande si on peut être pardonné de toutes nos fautes. Et en dépit de ses aveux qui répètent au tribunal la pénitence auprès d'un moine, il demeure inquiet. Le souvenir de ses péchés le torture. Puis inlassablement, malgré l'avis de ses confesseurs, il veut redire ses fautes encore une fois. Il ne trouve pas le calme après ses nouveaux aveux. Il y a de la difficulté. Il a bien des fois des tentations véhément de se précipiter par une grande ouverture ménagée dans sa chambre. Le suicide. Mais en se rappelant à temps quel crime sacrilège commet celui qui se suicide, il s'écrie « Seigneur, je ne ferai chose qui vous offense. » C'est une conversion difficile. Et certains jours, au moment où il entre dans l'église pour assister à la grand-messe, il entend au-dedans de lui une voix qui dit « Comment pourras-tu supporter une vie aussi dure que celle que tu mènes pendant les 70 ans qui te restent à vivre ?» Mais à l'instant, il reconnaît là la présence du démon. Et il répond intérieurement, puis avec une grande force, « Misérable, peux-tu, toi, me promettre une meilleure vie, une seule heure de vie ?» Il faut ajouter qu'à côté de ces assauts du démon, somme toute assez rares, il goûte de grandes ivresses spirituelles, de grands moments de paix. Et dans ses dictées au père Gonzalez, quand il raconte sa vie, saint Ignace nous révèle quelques-unes de ses visions intérieures qui l'ont instruit si miraculeusement. Hein. Des visions intérieures, c'est simplement des enseignements intérieurs. Bien des fois, et pendant bien longtemps, étant en oraison, il a vu avec les yeux intérieurs l'humanité de Jésus-Christ, sans distinction des membres, cependant. S'il disait qu'il l'a vu 20 ou 40 fois, il n'oserait penser que ce fût mentir. Il l'a vu souvent, quoi. Intérieurement. Ça ne veut pas dire que c'est des vraies apparitions. Ça veut dire que c'est le fruit d'un amour profond, d'une conversion sincère. Notre-Dame aussi, il l'a vu, en semblable forme, sans distinction des membres, dit-il. Puis depuis, les révélations successives lui permettent de pénétrer certains mystères de la Sainte Trinité, puis de la création du monde. Et l'on ne saurait terminer, il me semble, tout ce récit de la conversion de saint Ignace de Loyola, sans parler des ravissements là, de Manresse, et sans parler de l'illumination spirituelle qui l'a inondé certains jours, alors qu'il suivait le chemin longeant la rivière Codonner. Dans le concours de vision, il reçoit la solution à des problèmes difficiles qui concernent le dogme, la foi, l'humanité. Puis après ces révélations extraordinaires, il lui semble, de son propre aveu, être un autre homme et posséder une intelligence autre que celle qu'il avait auparavant. Il commence à comprendre vraiment ce que c'est que de croire. Et ce chevalier, si ignorant des choses religieuses, devait, pour devenir un docteur de l'Église, apprendre peu des hommes et des livres. Il possédait son maître d'école, qui était le Père des Lumières. Oui, qui d'une façon miraculeuse le métamorphose de jour en jour. Et maintenant, sur son passage, on ne crie plus ironiquement « l'homme au sac », on murmure avec d'émotion « l'homme est sainte, l'homme saint ». Sa conversion était chose faite. Maintenant, il va pouvoir partir pour Rome, Venise et Jérusalem à la conquête mystique de tout ce qu'il désire. Il voit déjà flamboyer sa devise « ad maiorem Dei gloriam » pour la plus grande gloire de Dieu. Quand il meurt, il y a 1000 jésuites Ils vont partout dans le monde. Partout où il y a des hommes, dans leur diversité de costumes et d'attirails et d'attitudes. Les uns en paix, les autres en guerre. Les uns dans les larmes, les autres dans les rires. Les uns bien portants, les autres malades. Les uns qui naissent, les autres qui meurent. Il a été suivi par des centaines de milliers d'hommes 10 ans après sa mort. Même 5 ans, mais seulement après sa mort. Ils étaient déjà 13 000 jésuites. Quelle conversion qui a suscité dans l'Église quelque chose d'extraordinaire. Vous m'écoutez, les jeunes? On peut faire des choses formidables quand on se donne à Dieu. Criez du fond de votre cœur, Esprit Saint, prends-moi. Prends-moi, je me donne. Prends-moi. Il va répondre.